La Constitution française dit « il n'y aura pas de titre ». Et en conséquence, toute cette classe d'une génération équivoque, appelée dans certains pays aristocratie et dans d'autres noblesse, est détruite. Et le père se trouve élevé à la dignité d'homme. Les titres ne sont que des surnoms, et tout surnom est un titre. C'est une chose assez innocente en elle-même, mais elle dénote une certaine fatuité dans le caractère humain qui le dégrade. Elle met l'homme au-dessous de lui-même dans les grandes choses et le rend imitateur des femmes dans les petites. Il parle de son beau ruban bleu comme une petite fille et montre sa jarretière neuve comme un enfant. Un certain écrivain de l'Antiquité dit « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je fus homme, je quittais mes joujoux. » C'est, à proprement parler, l'esprit élevé de la France qui a fait disparaître la folie des titres. Il est devenu trop grand pour se revêtir des habits puérils de comte et de duc et a endossé la robe virile. La France n'a donc point égalisé, mais elle l'a élevé. Elle est passée de l'enfance à l'âge viril. La petitesse d'un mot sans signification, tel que celui de duc ou de comte, a cessé de plaire. Ceux-mêmes qui le possédaient ont dédaigné ce galimatia, et comme ils étaient trop grands pour le hochet, ils ont méprisé la sonnette. L'esprit naturel de l'homme, qui désire ardemment son habitation natale, la société, rejette tous les joujoux qui l'en séparent. Les titres ressemblent au cercle que fait la baguette du magicien pour circonscrire la félicité humaine. Celui qui les a s'emprisonne dans la Bastille d'un mot et regarde de loin la vie enviée de l'homme. Est-il donc fort surprenant que les titres soient tombés en France ? N'est-il pas plus surprenant qu'on les conserve encore quelque part ? Que sont-ils ? Quelle est leur valeur et que rapportent-ils ? Quand on parle d'un juge ou d'un général, on y attache l'idée de sa charge et de son caractère. On s'imagine voir la gravité dans l'un et la bravoure dans l'autre. Mais quand on se sert d'un mot simplement comme d'un titre, on n'y attache aucune idée. Dans tout le vocabulaire d'Adam, on n'y trouve aucun animal qui ressemble à un duc ou à un comte. Et vraiment, on ne saurait attacher aucune idée à ces mots. On ne sait s'ils signifient force ou faiblesse, sagesse ou folie, enfant ou homme, cavalier ou cheval. Quel respect peut-on donc avoir pour ceux qui ne décrivent rien et ne signifient rien ? L'imagination a donné des formes et des caractères aux centaures, aux satyres et même aux fées. Mais les titres surpassent les pouvoirs de l'imagination et sont des non-descriptions chimériques. Ce n'est point tout. Si tout un pays est disposé à les regarder avec mépris, toute leur valeur est évanouie et personne ne les avouera. Ce n'est que l'opinion commune qui les fait quelque chose ou rien, ou pire que rien. Il n'est pas besoin d'ôter les titres car ils s'évanouissent dès que la société veut les tourner en ridicule. Cette espèce d'importance imaginaire est visiblement sur le déclin dans toutes les parties de l'Europe, et elle se hâte de disparaître à mesure que le monde de la raison s'élève. Il y eut un temps où la dernière classe de ce qu'on appelle noblesse était plus considérée que ne l'est aujourd'hui la première, et où un chevalier en armure, parcourant les terres de la chrétienté en cherche d'aventure, était plus regardé qu'un duc moderne. On a vu cette folie cesser. Elle a cessé parce qu'on s'en est moqué, et la farce des titres aura le même sort. Les patriotes de France se sont aperçus de bonne heure que le rang et la dignité devaient avoir d'autres bases. Les anciennes étaient écroulées. Il faut qu'ils soient fondés sur les bases solides du caractère, au lieu des bases chimériques des titres. Ils ont apporté leurs titres à l'autel et en ont fait un holocauste à la raison. Si la folie des titres n'avait été susceptible de causer aucun mal, elle n'aurait pas valu la peine d'une abolition formelle telle que l'Assemblée nationale l'a décrétée. Et c'est ce qui fait qu'il devient nécessaire d'examiner davantage la nature et le caractère de l'aristocratie. Ce que l'on appelle dans des pays aristocratie et dans d'autres noblesse tire son origine des gouvernements fondés sur la conquête. C'était originairement un ordre militaire pour soutenir un gouvernement militaire, car tels sont tous les gouvernements fondés sur des conquêtes. Et afin de conserver une succession de cet ordre pour servir aux fins pour lesquelles il était établi, tous les cadets de ces familles furent déshérités et le droit d'aînesse établi. nous voyons dans cette loi la nature et le caractère de l'aristocratie. C'est une loi contraire à toutes les lois de la nature, et la nature elle-même demande son abolition. Établissez la justice dans les familles, et l'aristocratie tombe. Par l'établissement aristocratique du droit d'aînesse, dans une famille de 6 enfants, il y en a 5 de sacrifiés. L'aristocratie n'a jamais plus d'un enfant. Les autres ne sont engendrés que pour être dévorés. On les abandonne aux cannibales, et le parent naturel prépare le repas contre nature. Comme tout ce qui n'est point dans la nature affecte plus ou moins les intérêts de la société, il en est de même de ceci. Tous les enfants que l'aristocratie désavoue, tous excepté l'aîné, ressemblent en général aux orphelins laissés à la charge de la paroisse. Il faut que le public pourvoie à leur subsistance, mais d'une manière bien plus dispendieuse. On crée des charges et des places dans les gouvernements et dans les cours, aux dépens du public, pour les entretenir. Quelles doivent être les réflexions d'un père ou d'une mère en contemplant les cadets de leur famille? Selon la nature, ils sont enfants et selon les lois du mariage, héritiers. Mais selon l'aristocratie, bâtards et orphelins. Chair et sang de leurs parents dans un sens, ils ne leur sont rien dans un autre. C'est pourquoi, pour rendre les parents à leurs enfants et les enfants à leurs parents, les parents les uns aux autres et l'homme à la société, et pour exterminer le monstre de l'aristocratie jusqu'à la racine, la Constitution française a aboli le droit d'aînesse. Si donc gît le monstre, et M. Burke peut, s'il lui plaît, écrire son épitaphe. Jusqu'ici, nous n'avons considéré l'aristocratie que sous un point de vue. Il faut à présent la considérer sous un autre. Mais soit que nous la regardions par devant ou par derrière, de côté ou de tout autre sens, en famille ou en public, c'est toujours un monstre. L'aristocratie en France avait un degré de force de moins que dans certains autres pays. Elle ne composait point un corps de législateurs héréditaires. Ce n'était pas une corporation d'aristocratie, car telle est la description que j'ai entendue faire à M. de Lafayette d'une chambre de pairs anglaise. Examinons donc les raisons qui ont déterminé la Constitution française à ne point former une pareille chambre en France. En premier lieu, parce que l'aristocratie, comme nous en avons déjà fait mention, ne se soutient que par des injustices et des tyrannies domestiques. En second lieu, parce qu'une aristocratie n'est point calquée pour donner des législateurs à une nation. Les idées d'une justice distributive sont corrompues dès sa source. Elle commence sa carrière en foulant aux pieds ses cadets, ses sœurs et les parents de toute espèce, et une éducation conforme à ses principes. Avec quelles idées de justice ou d'honneur un homme qui absorbe l'héritage de toute une famille, ou qui lui en laisse une misérable portion avec autant d'insolence que s'il lui faisait un don, peut-il entrer dans une chambre de législation? En troisième lieu, parce que l'idée de législateurs héréditaires est aussi absurde que celle de juges héréditaires ou de jurés héréditaires, aussi insensée que celle d'un mathématicien héréditaire ou d'un philosophe héréditaire, et aussi ridicule que celle d'un poète lyrique héréditaire. En quatrième lieu, parce qu'un corps d'homme qui n'est responsable à personne ne doit avoir la confiance de personne. En cinquième lieu, parce que c'est continuer dans les principes barbares des gouvernements fondés sur les conquêtes et dans l'idée avilissante que l'homme est la propriété d'un autre homme et qu'il le gouverne par un droit personnel. En sixième lieu, parce que l'aristocratie tend à faire dégénérer l'espèce humaine. L'économie universelle de la nature nous apprend, et l'exemple des Juifs nous prouve que l'espèce humaine dégénère lorsqu'elle est réduite à un petit nombre de personnes, séparées de la tige commune et qui ne contractent de mariage qu'entre elles. L'aristocratie détruit même la fin de son établissement et devient avec le temps l'opposé de tout ce qui est noble dans l'homme. M. Burke parle de noblesse, qu'il nous montre ce que c'est. Les plus grands hommes que la nature ait produits sont sortis du sein de la démocratie. L'aristocratie n'a jamais pu aller de pair avec la démocratie. Le noble artificiel ressemble à un nain devant le noble de la nature. Et les hommes en qui la nature a survécu dans l'aristocratie, car dans tous les pays il y en a quelques-uns, ces hommes-là, dis-je, la méprisent. Mais il est temps de passer à un autre sujet. la Constitution française a réformé le clergé. Elle a augmenté le revenu de la classe moyenne et diminué celui du haut clergé. Il n'y en a pas à présent qui ait moins de 1200 livres, ni plus de 10 à 12 000 livres de rente. Qu'a M. Burke à dire contre cette réforme? Voyons ses raisons. Il dit que le peuple anglais voit sans peine et sans murmure un archevêque avoir le pas sur un duc, qu'il peut voir un évêque de Durham ou un évêque de Winchester en possession d'un revenu de 240 000 livres, sans trouver aucune raison pour laquelle ce revenu serait plus mal placé entre ses mains qu'entre celles d'un comte ou d'un chevalier. Et M. Burke offre cela comme un exemple à la France. Quant à la première partie, que l'archevêque ait le pas sur le duc ou le duc sur l'archevêque, c'est, je crois, aussi indifférent au peuple en général que Sternhold et Hopkins, et Hopkins et Sternhold. Note: Sternhold et Hopkins, ou Hopkins et Sternhold. L'un chapelain et l'autre poète du roi. Deux poètes fort mauvais qui traduisirent les psaumes de David en vers anglais. Fin de la note. On peut mettre celui que l'on voudra le premier. Et comme je confesse ne pas connaître la nature de cette question, je ne la contesterai pas à M. Burke. Mais quant à la dernière, j'ai quelque chose à répondre. M. Burke n'a pas bien posé la question. La comparaison n'est pas dans l'ordre en la faisant entre l'évêque, le comte et le chevalier. Elle doit être faite entre l'évêque et le curé, et alors elle sera posée de cette manière. Le peuple anglais voit sans peine ou sans murmure un évêque de Durham ou un évêque de Winchester en possession de 240 000 livres de rente, et un curé n'a que 800 ou 900 livres. Non, non, monsieur, le peuple ne voit pas cela sans peine ni sans murmure. C'est un cas dont l'injustice est visible dans le monde, et l'un des 100 000 autres qui demandent hautement une constitution. En France, le cri de « l'Église, l'Église » se fit entendre aussi souvent qu'il est écrit dans le livre de M. Burke, et aussi fort que lorsque le bill en faveur des différentes sectes fut présenté au Parlement d'Angleterre. Mais ce cri ne trompa plus la généralité du clergé de France. La plupart s'aperçurent que, quel que fût le prétexte des opposants, ils étaient eux les principaux objets de la réforme. Que c'était le cri du haut clergé pour empêcher qu'il y eût aucun règlement de revenu entre celui qui avait 200 000 livres de rente et le curé de paroisse. Ils joignirent donc leur cause à celle de tous les opprimés et par cette réunion obtinrent justice. La Constitution française a aboli la dîme, cette source perpétuelle de mécontentement entre le paroissien et le décimateur. Lorsque le droit de dîme existe sur une terre, cette terre appartient, pour ainsi dire, à deux personnes. L'une en reçoit un dixième et l'autre 9/9. Conséquemment, par des principes d'équité, si cette terre peut être améliorée et produire par le moyen de cette amélioration le double ou le triple de ce qu'elle rapportait auparavant, la dépense de l'amélioration devrait être partagée proportionnellement par les parties qui en retirent le produit. Mais il n'en est pas ainsi de la dîme. Le fermier fait toute la dépense et le décimateur prend un dixième de l'amélioration outre sa première dîme. Et par ce moyen emporte la valeur de 2/10 au lieu d'un. C'est encore une chose qui fait désirer une constitution. La Constitution française a renoncé à la tolérance et à l'intolérance aussi et établi une pleine liberté de conscience. La tolérance n'est point l'opposé de l'intolérance. Elle n'en est que le déguisement. Elles sont toutes deux de despotisme. L'une s'arroge le droit d'empêcher la liberté de conscience, et l'autre de l'accorder. L'une ressemble au pape armé de feu et de flammes, et l'autre au pape vendant ou accordant des indulgences. L'une est l'Église et l'État, et l'autre l'Église et le trafic. Mais on peut placer la tolérance sous un jour plus frappant. L'homme ne s'adore pas lui-même, mais il adore son Créateur. Et la liberté de conscience qu'il réclame n'est pas pour son service à lui, mais pour le service de l'être suprême. C'est pourquoi, dans ce cas-ci, il faut nécessairement que nous concevions la double idée de deux êtres, le mortel qui paye son adoration et l'immortel qui est adoré. Donc la tolérance ne se place pas entre un homme et un autre homme, ni entre aucune dénomination de religion et une autre, mais entre Dieu et l'homme, entre l'être qui adore et l'être qui est adoré. Et par le même acte d'autorité usurpée par lequel elle tolère l'adoration de l'homme, elle a en même temps la présomption impie de tolérer que le Tout-Puissant la reçoive, cette adoration. Si on présentait au Parlement un bill intitulé « Acte pour accorder à l'être suprême la liberté de recevoir les adorations d'un juif ou d'un turc », tout le monde serait dans le dernier étonnement. On dirait que c'est un blasphème. Il y aurait un cri général. L'absurdité de ce que l'on appelle tolérance en matière de religion paraîtrait alors sans déguisement. Mais l'absurdité n'en est pas moins grande parce qu'il n'y a que le nom d'homme qui soit mis dans ces lois. Car on ne saurait séparer la double idée de l'adorateur et de l'être adoré. Qui es-tu donc, vaine poussière? Quelle que soit la dénomination que tu t'arroges, soit roi, évêque, église, état, parlement, ou tout ce que tu voudras, qui ose ainsi interposer ta presque nullité entre l'âme de l'homme et son créateur, mêle-toi de tes propres affaires. Si sa croyance n'est pas comme la tienne, c'est une preuve que la tienne n'est pas comme la sienne, et il n'y a point de puissance terrestre qui puisse être juge entre vous. Quant à ce que l'on appelle différentes dénominations de religion, si chacun est laissé juge de sa propre religion, il ne se trouvera aucune religion mauvaise. Si au contraire chacun juge la religion d'un autre, il ne s'en trouvera aucune de bonne. C'est pourquoi tout le monde a raison ou tout le monde a tort. Mais quant à la religion elle-même, sans avoir égard au nom, considérée comme une émanation de la famille universelle du monde vers le divin objet de toute adoration, c'est l'homme qui apporta à son Créateur les premiers fruits de son cœur. Et quoique ces fruits soient différents les uns des autres, comme les fruits de la terre, le tribut reconnaissant de chacun est accepté. Un évêque de Durham, ou un évêque de Winchester, ou un archevêque qui a le pas sur un duc, ne refusera pas la dîme d'une gerbe de blé parce que ce n'est pas une botte de foin, ni d'une botte de foin parce que ce n'est pas une gerbe de blé, ni d'un cochon de lait parce que ce n'est ni l'une ni l'autre. Mais ces mêmes personnes, sous la forme d'une église établie, ne veulent pas permettre à leur Créateur de recevoir la variété des dîmes de la dévotion de l'homme. La chanson continuelle de M. Burke, c'est « L'Église et l'État ». Il n'entend pas aucune Église particulière ou aucun État particulier. Et il se sert de ce terme comme d'une figure générale pour débiter la doctrine politique de réunir l'Église et l'État dans tous les pays. Et il blâme l'Assemblée nationale de France de ne pas l'avoir fait. Accordons quelques réflexions à ce sujet. Toutes les religions sont, par leur nature, tendres et bénignes et conformes aux principes de la morale. Elles n'auraient pas dans l'origine fait de prosélytes en professant le vice, la cruauté, la persécution ou l'immoralité. Comme toute autre chose, elles ont eu leur commencement, et elles ont fait des progrès par la persuasion, l'exhortation et l'exemple. Comment arrive-t-il donc qu'elles perdent leur douceur originelle et qu'elles deviennent moroses et intolérantes? Cela vient de l'union que M. Burke recommande. En joignant l'Église à l'État, on produit une espèce de mulet capable de détruire et incapable d'engendrer, appelé l'Église établie par la loi. Il est étranger, même dès sa naissance, à la mère qui l'a enfanté, et avec le temps, il la chasse et la détruit. L'Inquisition en Espagne ne vient pas de la religion originairement établie, mais de ce mulet engendré par l'Église et l'État. Les supplices dans Smithfield venaient de cette même production hétérogène. Et ce fut ensuite la régénération de cet étrange animal, en Angleterre, qui réveilla la rancune et l'irréligion parmi ses habitants et qui chassa en Amérique les trembleurs et les autres non-conformistes. La persécution n'est pas un des traits originaires de la religion, mais c'est toujours le trait caractéristique de toutes les religions de loi ou des religions établies par la loi. Ôtez cet établissement par la loi, et chaque religion reprendra son caractère naturel de bénignité. En Amérique, un prêtre catholique est un bon citoyen, un bon caractère et un bon voisin. Un épiscopal est de même. Et cela vient, indépendamment des hommes, de ce qu'il n'y a point en Amérique de religion établie par la loi. Si l'on considère cette matière sous un point de vue politique, on verra les mauvais effets que cela a produits sur la prospérité des nations. l'union de l'Église et de l'État a appauvri l'Espagne. La révocation de l'édit de Nantes a fait passer les manufactures de soie de France en Angleterre, et l'Église et l'État chassent à présent d'Angleterre les manufactures de coton pour les faire passer en France et en Amérique. Que M. Burke continue donc de prêcher la doctrine antipolitique d'État et d'Église, elle fera du bien. L'Assemblée nationale ne suivra pas son avis, elle profitera de sa folie. Ce fut en voyant les mauvais effets que ce monstre produisait en Angleterre que les Américains se tinrent en garde contre lui. Et ce fut l'expérience des maux qu'il avait causés en France qui engagea l'Assemblée nationale à le détruire et, comme l'Amérique, à établir une pleine liberté de conscience et un droit universel de citoyen. Je vais discontinuer la comparaison entre les principes de la Constitution française et ce qui existe en Angleterre, et terminer cette partie de mon sujet en faisant quelques observations sur l'organisation des partis formels des gouvernements anglais et français. Le pouvoir exécutif dans les deux pays est entre les mains d'un homme appelé roi. Mais la Constitution française fait une distinction entre le roi et le souverain. Elle regarde la place du roi comme une fonction et place la souveraineté dans la nation. Les représentants de la nation qui composent l'Assemblée nationale et qui forment le pouvoir législatif sont choisis par le peuple, ce droit résidant essentiellement dans la nation. En Angleterre, c'est tout autre chose, et cela vient de l'établissement originaire de ce que l'on appelle sa monarchie, car, comme par la conquête, tous les droits du peuple ou de la nation furent absorbés par le conquérant qui joignit le titre de roi à celui de conquérant, les choses que l'on regarde en France comme les droits du peuple ou de la nation sont regardées en Angleterre comme des concessions de ce qu'on appelle la couronne. Les deux branches du Parlement d'Angleterre furent érigées par des lettres patentes accordées par les descendants du conquérant. La Chambre des communes n'a pas pris son origine dans le droit qu'à la nation de déléguer ses pouvoirs, mais dans une concession ou une grâce. Par la Constitution française, la nation est toujours nommée avant le roi. Le troisième article de la Déclaration des droits dit « La nation est essentiellement la source de toute souveraineté ». M. Burke dit qu'en Angleterre, c'est le roi qui en est la source, qu'il est aussi la source de tous les honneurs. Mais comme cette idée vient évidemment de la conquête, je ne ferai aucune autre remarque là-dessus, sinon qu'il est de la nature des conquêtes de tout renverser sans dessus-dessous. Et comme on ne refusera pas à M. Burke le privilège de parler deux fois, et qu'on n'aperçoit dans la figure d'une source que deux parties, la source elle-même et le canal par où elle roule, il aura raison la seconde fois. La Constitution française met le législatif avant l'exécutif, la loi avant le roi, la loi, le roi. Cela est aussi dans l'ordre naturel des choses, parce qu'il faut que les lois existent avant qu'elles soient mises en exécution. Un roi en France ne dit pas, en s'adressant à l'Assemblée nationale, « mon assemblée », comme le roi d'Angleterre dit « mon parlement ». Il ne peut le faire selon les principes de la Constitution. Cela ne serait pas admis. Peut-être y a-t-il de la justesse à se servir de cette expression en Angleterre, parce que, comme nous l'avons dit ci-devant, les deux chambres du Parlement tirèrent leur origine de ce qui est appelé la couronne par une patente ou concession, et non pas des droits inhérents dans le peuple, comme le fait l'Assemblée nationale de France, dont le nom désigne l'origine. Le président de l'Assemblée nationale ne prie pas le roi d'accorder à l'Assemblée la liberté de parole, comme la Chambre des communes d'Angleterre. La dignité constitutionnelle de l'Assemblée nationale ne doit pas s'abaisser. La parole est d'ailleurs un des droits naturels de l'homme toujours retenu. Et quant à l'Assemblée nationale, c'est son devoir d'en faire usage, et la nation l'y autorise. Ses membres sont élus par le plus grand corps d'hommes exerçant le droit d'élection que l'Europe eût encore vu. Ils ne sont point sortis de l'ordure des bourgs pourris, et ils ne sont pas non plus les bas représentants de villes aristocratiques. Sentant la dignité de leur caractère, ils la soutiennent. Leur langage, pour ou contre une question, est libre, hardi et mâle, et s'étend à toutes les parties et à toutes les circonstances de la question. S'ils se présentent devant eux quelque matière relative au département exécutif ou à la personne qui le préside, le roi, elle est discutée avec la fermeté que doivent avoir des hommes et dans le style des honnêtes gens. Leurs réponses et leur adresse sont dans le même style. Ils ne regardent pas de loin, avec la bouche béante de l'ignorance vulgaire, et ne se courbent point avec la bassesse servile des êtres nuls de la cour. La fierté gracieuse de la vérité ne connaît pas les extrêmes et conserve dans toutes les situations de la vie le juste caractère de l'homme. Examinons actuellement l'autre côté de la question. Dans les adresses des parlements d'Angleterre à leur roi, on n'y voit ni l'esprit intrépide des anciens parlements de France, ni la dignité sereine de l'Assemblée nationale. On n'y aperçoit même rien d'analogue aux manières anglaises qui approchent un peu de la rudesse. Puisqu'elles ne sont donc ni d'extraction étrangère, ni d'extraction naturelle anglaise, il faut chercher leur origine ailleurs, et cette origine, c'est la conquête des Normands. Elles sont effectivement dans le genre servile du vassalage, et marquent d'une manière évidente l'humble distance qui n'existe dans aucune autre situation humaine qu'entre le conquérant et le conquis. Il est évident que cette idée de vassalage et cette manière de parler existaient encore au temps de la Révolution de 1688 par la déclaration du Parlement à Guillaume et à Marie, en ces mots « Nous nous soumettons très humblement et très fidèlement, nous, nos héritiers et notre postérité pour toujours. » Se soumettre est certainement un terme de vassalage qui répugne à la dignité de la liberté et est une répétition du langage usité au temps de la conquête. Comme les choses ne s'estiment que par comparaison, quelque élevée au-dessus de sa valeur qu'ait été la Révolution de 1688, en raison des circonstances, elle trouvera sa juste évaluation. Elle est déjà sur le déclin, éclipsée par l'orbite croissant de la raison et par les révolutions lumineuses de l'Amérique et de la France. En moins d'un autre siècle, elle ira, ainsi que l'ouvrage de M. Burke, au caveau de famille de tous les Capulets. Note, Capulet, expression anglaise pour signifier qu'une chose doit finalement périr. L'univers aura alors peine à croire qu'une nation qui s'appelle libre est envoyée chercher un homme en Hollande, les revêtus de pouvoir, afin de se mettre sous sa domination, et lui est donné près d'un million sterling de rente pour avoir la permission de se soumettre à lui, elle et sa postérité, comme des esclaves pour toujours. Cependant, il y a une vérité qu'il est nécessaire de faire connaître. J'ai eu l'occasion d'en avoir des preuves. C'est que, quelles que soient les apparences, il n'y a point de classe d'hommes qui méprisent tant la monarchie que les courtisans. Mais ils savent bien que si les autres la voyaient comme ils la voient, la pièce tomberait. Ils ressemblent à ces gens qui gagnent leur vie à montrer des choses curieuses, à qui la folie de ces prétendues choses curieuses est si familière qu'ils les tournent en ridicule. Mais si les spectateurs en savaient autant qu'eux, adieu la pièce curieuse et ses profits. La différence entre un républicain et un courtisan, par rapport à la monarchie, c'est que le premier s'y oppose, croyant que c'est quelque chose, et le dernier en rit, sachant que ce n'est rien. Comme j'étais en correspondance avec M. Burke, le croyant alors avoir de meilleurs principes que son livre ne l'annonce, je lui écrivis l'hiver dernier de Paris et l'informais que les choses allaient le mieux du monde. Entre autres particularités, je lui mandais dans cette lettre l'heureuse situation où se trouvait l'Assemblée nationale. Je lui disais que ses membres avaient adopté un parti qui réunissait à la fois la morale et les intérêts politiques. Ils n'ont pas besoin, ajoutai-je, de tenir un langage qu'ils ne croient pas eux-mêmes, dans le dessein frauduleux de le faire croire aux autres. Il ne leur faut pas le secours de l'art pour maintenir leur poste. Ils n'ont qu'à éclairer le genre humain. Il n'est pas de leur intérêt d'entretenir l'ignorance, mais de la faire disparaître. Ils ne sont ni dans le cas du parti ministériel, ni dans celui du parti de l'opposition en Angleterre, qui, quoique opposés, sont toujours réunis pour ne pas dévoiler le mystère commun. L'Assemblée nationale doit ouvrir un magasin de lumière. Elle doit faire connaître à l'homme le caractère de l'homme, et plus elle le rapprochera de ce point, plus elle sera forte. En contemplant la Constitution française, nous y voyons un ordre raisonnable de choses. Les principes sont d'accord avec les formes, et les unes et les autres avec leur origine. On dira peut-être, pour excuser une mauvaise forme, que ce n'est que la forme, mais on se trompe. Les formes viennent des principes et servent à conserver les principes dont ils tirent leur origine. Il est impossible de faire usage d'une mauvaise forme, sinon sur un mauvais principe. Elle ne saurait être posée sur un bon. Et lorsque dans un gouvernement, les formes sont mauvaises, c'est un signe certain que les principes le sont aussi. Je vais ici terminer ce sujet. Je l'ai commencé en remarquant que M. Burke n'avait pas jugé à propos de faire une comparaison entre les constitutions anglaises et françaises. Il s'excuse dans la page 241 de ne l'avoir pas faite en disant qu'il n'a pas eu le temps. Le livre de M. Burke fut plus de 8 mois à composer et contient 366 pages. Comme son omission fait tort à sa cause, son excuse la rend encore plus mauvaise et les habitants des îles britanniques vont commencer à examiner s'il n'y a pas quelque vice radical dans ce que l'on appelle la constitution anglaise, puisque M. Burke a été obligé d'en supprimer la comparaison pour ne pas l'exposer aux yeux du public.